Le journal Pierre Veille, bonjour Pierre.
Bonjour Ali Badou, bonjour à tous. Malgré les mesures contraignantes en Alsace pour endiguer le coronavirus, fermeture des écoles, limitation des rassemblements non essentiels, le marché de Mulhouse s'est tenu ce matin, nous serons sur place dans un instant. Les hôpitaux dans l'Est modifient leur stratégie, ils vont accueillir les malades qui ont des symptômes graves, les autres devront être soignés chez eux. Conséquence de l'épidémie, beaucoup moins de clients dans les commerces en France qui demandent une aide urgente de l'État. L'Italie, de son côté, envoie 20 000 personnes en renfort médical dans ses hôpitaux. Au sommaire encore, le sort des milliers de migrants à la frontière entre la Grèce et la Turquie. Les deux pays s'accusent mutuellement d'être responsables de la dégradation de la situation. Notre invité dans ce journal, Lola Schumann, qui est chargée du dossier de la protection des populations à Amnesty International France. Aux États-Unis, la visite du président brésilien Jair Bolsonaro, celui qu'on surnomme le Trump des tropiques. La disparition d'un grand nom du jazz, McCoy Tyner. Il avait 81 ans. Et puis la prescription culturelle du samedi, un livre de Yegor Gran, Les services compétents aux éditions POL, pour dénoncer le KGB et l'URSS des années 70.
France Inter.
Le coronavirus s'étend en France, 613 cas, 39 personnes dans un état grave, 9 décès. Les secteurs les plus touchés, l'Oise, 110 cas, et l'Alsace, 136 personnes contaminées. Les premières mesures contraignantes seront mises en œuvre lundi dans l'Oise et le Haut-Rhin, avec la fermeture pendant 2 semaines des crèches, maternelles, collèges et lycées. Les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits. Alors quelle est la situation ce matin à Mulhouse, dans le Haut-Rhin ? On retrouve sur place Julie Pietri. Bonjour Julie.
Bonjour.
Le traditionnel marché de la ville a été maintenu.
Près de 300 commerçants vendent ici vêtements, fromages, viande dans une grande halle, mais aussi en extérieur. Mohamed, qui vend des fruits et légumes, a craint un moment l'interdiction.
2 euros in absentia. On s'est posé la question, mais bon, la marchandise elle est là. Et pour l'instant ça marche et on espère que ça va continuer, quoi. On pèse qu'on peut, on va se laver les mains régulièrement dès qu'on peut. Il y a les toilettes là, juste au niveau du parking. On fait ce qu'on peut pour se protéger, voilà.
Entre les étals, les clients défilent. Rares sont ceux qui portent un masque, quelques poignées de main, quelques embrassades ici et là. S'ils disent ne pas vouloir dramatiser, les habitants rencontrés se posent quand même des questions. Pourquoi fermer les écoles, les musées et pas le marché? C'est le cas de Sophia.
Déjà là, il y a un gros souci, il y a un gros problème. C'est pas logique. Quand on prend une décision, on la prend pas à la légère, donc il faut réfléchir. Et là, j'ai l'impression, ils ont pris des décisions, mais à 50%.
Le préfet du département a expliqué hier qu'il souhaitait préserver l'activité économique. Gilbert, 87 ans, approuve lui aussi sa décision.
Là, ce matin, j'ai fait mes emplettes, aussi bien chez le volailler, chez le fromager. Le NHA ne nous a pas arrêtés non plus. Je ne sais pas pourquoi le corona devrait nous arrêter.
Le vieil homme devait aussi assister à une réunion aujourd'hui de son groupe de randonneurs. Celle-ci a été annulée.
Julie Pietri à Mulhouse en direct avec les moyens techniques de François Rivalan. Fermeture donc des établissements scolaires, interdiction des rassemblements non essentiels. Ce sont les mesures mises en place dans le Haut-Rhin pour freiner la progression du virus. Et puis il y a la gestion des malades. Christophe Lannelogue, le directeur général de l'Agence régionale de santé du Grand Est, était ce matin l'invité d'Éric Delvaux et Patricia Martin sur France Inter. Il a expliqué de quelle façon on va organiser cette prise en charge des malades.
Il y a deux priorités, hein. Bloquer la propagation du virus. La deuxième priorité, c'est de prendre en charge les malades. C'est une maladie qui, pour 80-85% des gens, est sans gravité. Et pour 10 à 15% des gens, peut être beaucoup plus grave. Et notre priorité aujourd'hui, dans le Haut-Rhin, c'est d'identifier les malades en différenciant ceux qui n'ont pas des symptômes de gravité et qu'on va confiner à domicile en leur disant « signalez-nous ». Quand ça se dégrade. Et ceux qui ont des symptômes graves en matière respiratoire, à qui on va dire, on vous hospitalise.
Mais ça demande aussi une organisation différente des SAMU, par exemple.
Alors, c'est effectivement la question cruciale, porte sur les centres 15, hein, parce que c'est le centre 15 qui va faire ce tri. Et nous ne pouvons pas faire autrement que de dire aux personnes, appelez le SAMU quand vous avez des symptômes. Et c'est le SAMU qui va décider si votre symptôme vaut confinement à domicile ou si votre symptôme vaut prise en charge hospitalière.
Christophe Lannelog, le directeur général de l'Agence régionale de santé du Grand Est. Le ministre de la Santé annonce aussi le déclenchement du plan blanc dans les hôpitaux et cliniques. Il permet de rappeler des personnels, de réquisitionner des praticiens retraités. Les opérations non urgentes peuvent être déprogrammées. Conséquence de l'épidémie dans les théâtres, les réservations à Paris sont en chute libre, une baisse de 30 à 50%. Beaucoup moins de monde aussi dans les magasins. Les commerçants sont très inquiets. Écoutez ce qu'en dit Johan Pétiot, le directeur général de l'Alliance du commerce, avec Jean Lémarie de France Info.
On assiste depuis maintenant 15 jours à une accélération de la baisse de fréquentation dans les magasins et encore plus depuis le passage en stade 2 en début de semaine. Si on donne un chiffre national, on est aux alentours de moins 12, moins 15%, mais c'est un chiffre national, donc avec des disparités locales très fortes dans des zones qui sont très impactées ou même dans les zones touristiques, on peut aller beaucoup, beaucoup plus fort. C'est une période difficile pour notre secteur maintenant depuis plus de 16 mois avec les gilets jaunes, les grèves contre la réforme des retraites, mais là c'est aujourd'hui une crise exceptionnelle et à crise exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles car les risques pour les commerçants sont véritablement présents.
Et parmi les mesures demandées, il y a effacer la dette sociale et fiscale des commerces qui en ont besoin ou encore réduire les loyers. Le match de Ligue 1 PSG Strasbourg prévu cet après-midi est reporté ainsi que celui de rugby féminin entre l'Écosse et la France dans le tournoi des Six Nations. Et puis on apprend que les concerts de la tournée de Mathieu Chédid en mai, au total 10 concerts, eh bien ils sont reportés de quelques mois en raison de l'épidémie de coronavirus. Avec 4636 cas de contamination et 197 morts, l'Italie est le pays le plus touché par l'épidémie en Europe. Le gouvernement italien a décidé d'envoyer 20 000 renforts dans ses hôpitaux, des médecins spécialisés, des infirmiers, des aides-soignants. Le nombre de lits en soins intensifs va augmenter de 50%. À Rome, Olivier Tosseri.
L'Italie tente désespérément d'endiguer la propagation du coronavirus. Malgré ces mesures de précaution draconiennes, comme la fermeture de toutes les écoles et universités du pays jusqu'au 15 mars prochain, mesure qui pourrait être prolongée jusqu'au 3 avril, ainsi que l'annulation, le report ou le fait de jouer toutes les compétitions sportives à huis clos, le nombre de contagions et de victimes a explosé. Face à un système sanitaire en surchauffe et à une arrivée du virus dans le sud moins bien équipé, le gouvernement envisage de mettre en place de nouvelles zones rouges. De nouveaux foyers de contagion sont en train d'apparaître dans le Piémont. Et à Bergame, en Lombardie, cette ville pourrait bientôt être proclamée zone rouge, tandis que le gouverneur de la région envisage de placer toute la région lombarde en isolement. L'exécutif a pour l'instant promis l'embauche de 20 000 médecins et infirmiers et un plan d'aide extraordinaire de 7,5 milliards d'euros pour soutenir les familles et les entreprises. Rome, Olivier Tosseri, France Inter.
Et à l'instant, on apprend un troisième cas de contamination au coronavirus parmi les agents de la RATP.
France Inter, le journal de 13h, Pierre Veil.
À nouveau ce matin, des gaz lacrymogènes ont été utilisés le long de la frontière entre la Grèce et la Turquie dans le secteur de Kastaniès, où sont rassemblés des milliers de migrants qui veulent entrer dans l'Union européenne. Conséquence de la décision de la Turquie de ne plus retenir les réfugiés syriens qui fuient la guerre. Depuis 6 jours, la Turquie et la Grèce s'accusent mutuellement d'être responsables de la situation catastrophique de ces migrants. À Kastaniès, Angélique Kourounis.
La bataille des chiffres fait rage. Côté turc, les migrants seraient plus de 380 000 à avoir franchi la frontière. Côté grec, 10 fois moins. Et 36 649 auraient tenté de passer la frontière depuis le début de la crise. Ils auraient été tous repoussés, soit plus de 2 000 par jour. C'est peu probable, d'autant qu'il n'y aurait eu que 252 arrestations. Le président de la Fédération internationale de la Croix-Rouge, Francesco Rocca, a également de son côté donné d'autres chiffres concernant les réfugiés qui attendent dans le camp improvisé côté turc, mais il a surtout piqué une véritable colère contre l'Union européenne.
Ce que j'ai vu était quelques centaines de personnes, pas plus. Il est faux de parler de la Grèce et de la Turquie. Il est juste de parler de l'UE et la Turquie. Il est important de mettre au point une nouvelle politique en Europe et une nouvelle aptitude de gérer et réparer les causes de la migration.
La propagande entre la Grèce et la Turquie bat son plein. Ankara accuse Athènes d'avoir tué 3 migrants et blessé 3 autres. Athènes nie. Athènes veut passer pour celle qui protège les frontières européennes. La Turquie pour la victime d'une Europe égoïste. Au milieu de cette instrumentalisation, les réfugiés coincés depuis une semaine entre 2 barrages de gaz lacrymogène. Castagnès, Angélique Ornis, France Inter.
Le président turc Recep Erdogan a donné l'ordre ce matin aux gardes-côtes d'empêcher les migrants de traverser la mer Égée. L'approche consistant à ne pas intervenir pour empêcher les migrants de quitter la Turquie reste valable, sauf pour ce qui concerne les départs par la mer en raison des dangers. C'est ce qu'annoncent les services des gardes-côtes turcs. Sur ce dossier des migrants, en ligne avec nous au téléphone, Lola Schulman, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de plaidoyer protection des populations à Amnesty International France. Cette situation à la frontière entre la Grèce et la Turquie, quelle est votre réaction? Qui est responsable de ce chaos?
La question est de se dire où est-ce qu'on place les personnes elles-mêmes, c'est-à-dire les personnes qui sont en besoin urgent de protection internationale. Lorsqu'on entend les États européens, la France également, dire qu'il est nécessaire de protéger les frontières, nous on dit Amnesty, il est nécessaire de protéger les personnes. Et ce sont ces personnes qui sont au cœur de nos recommandations, ces personnes qui ont un besoin urgent de protection internationale. Donc on condamne fermement ce qui se passe aujourd'hui à la frontière entre la Grèce et la Turquie. Et on demande aux États européens de faire preuve de solidarité. Et malheureusement, ce n'est absolument pas le spectacle que nous donnent aujourd'hui les États européens.
Mais comment pourrait fonctionner, s'organiser cette solidarité, Lola Schulman?
Mais cette solidarité, elle est très simple à organiser. On est face pour l'instant à quelques centaines, quelques milliers de personnes. J'espère quand même que les États européens sont en capacité de faire face à une arrivée de personnes qui sont en besoin urgent de protection internationale. Il s'agit de mettre en place, par exemple, un système de relocalisation, c'est-à-dire entre l'ensemble des États membres, le fait que ces personnes puissent être réparties et puissent voir leur demande d'asile examinée dans des conditions dignes. Aujourd'hui, l'Europe, les États européens sont évidemment en capacité de faire face à cette situation.
Mais vous avez entendu cette semaine Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, qui a dit que la frontière grecque restera fermée.
Eh bien, on condamne fermement cette position, puisqu'on ne peut pas fermer une frontière, puisque l'Europe et la Grèce ont signé des conventions internationales, le droit international, avec notamment la question du droit d'asile. Donc aujourd'hui, toute personne qui fuit son pays, qui fuit un conflit, doit pouvoir déposer une demande d'asile dans le pays où elle souhaite se rendre. Et aujourd'hui, on demande fermement à l'Europe d'ouvrir les frontières pour justement faire en sorte que ces personnes puissent atteindre le sol européen et déposer une demande d'asile. C'est faire jouer aussi la question de la solidarité et c'est ça aujourd'hui l'enjeu pour nous au niveau européen.
Amnesty International publie une étude des politiques en Europe contre ceux qui aident les migrants. Ceux qui aident les migrants seraient victimes d'une véritable répression. La France fait partie de ces pays qui empêchent ceux qui veulent aider les migrants de travailler ?
Tout à fait. La France fait partie des pays qu'on cible aujourd'hui dans le rapport qu'Amnesty International publie, puisque la France met en place des mesures pour empêcher, entraver, voire harceler les associations et les citoyens qui viennent en aide aux personnes migrantes et réfugiées.
Et ça se passe où et comment ? Ça se passe où et comment ?
Ben justement, ça se passe à la frontière franco-italienne où je me trouve actuellement à Briançon, puisque justement, on va célébrer aujourd'hui la solidarité et la fraternité, contrairement aux États européens qui la répriment. Et à la frontière franco-italienne aujourd'hui, des personnes sont toujours poursuivies pour aide à l'entrée sur le territoire, alors même qu'ils n'ont fait qu'un geste d'humanité envers des personnes migrantes et réfugiées qui tentent de franchir les Alpes dans des conditions extrêmement compliquées. Et ces citoyens se retrouvent devant les tribunaux, alors même que pour nous, pour Amnesty, il devrait être célébré.
Merci Lola Schulman d'avoir été en direct avec nous ce matin, chargée de plaidoyer protection des populations à Amnesty International France. À l'étranger, la visite de Jair Bolsonaro aux États-Unis. Le président brésilien doit passer 4 jours en Floride, visite essentiellement à caractère économique. Jair Bolsonaro doit dîner ce soir avec Donald Trump à Mar-a-Lago, la somptueuse résidence d'hiver de Donald Trump. Le président brésilien a souvent dit son admiration pour le président des États-Unis. Bolsonaro est même parfois qualifié de Trump des tropiques. À Washington, Grégory Phillips.
À la Maison-Blanche, il y a un peu moins d'un an, les deux hommes avaient affiché leur complicité, unis notamment dans la même dénonciation de l'immigration, du multilatéralisme ou encore des fake news, pour reprendre une expression chère à Donald Trump.
Yes, fake news.
Lors de la même conférence de presse, Bolsonaro avait aussi dit toute son admiration pour le président américain. Harold Trinkunas est chercheur spécialiste du Brésil à l'université de Stanford, en Californie.
On ne sait pas exactement à quel point ils sont proches personnellement, mais il est certain qu'ils partagent la même vision du monde, populisme, conservatisme et nationalisme. C'est vraiment ce qu'ils ont en commun.
Une complicité qui se concrétise surtout en matière de politique étrangère, où le gouvernement Bolsonaro s'aligne sur l'administration Trump.
On voit ça dans de nombreuses déclarations au niveau international, mais cet alignement est très concret quand, par exemple, le Brésil décide aussi de déménager son ambassade à Jérusalem.
La relation entre les deux hommes est si bonne que Jair Bolsonaro avait un temps envisagé de nommer son fils Eduardo au poste d'ambassadeur du Brésil aux États-Unis, mais il avait finalement renoncé face aux accusations, chez lui, de népotisme. Washington, Gregory Phillips, France Inter.
La disparition aux États-Unis d'un grand pianiste de jazz, l'américain McCoy Tyner. Il avait 81 ans, il a joué avec John Coltrane. McCoy Tyner s'inscrit dans la lignée d'Herbie Hancock, Bill Evans ou Chick Corea. Il a façonné la trajectoire du piano jazz moderne, comme l'explique André Manoukian, pianiste et chroniqueur sur France Inter, Pop & Co, le mercredi dans le 7-9 d'Inter.
Il a inventé quelque chose d'unique. Quand Coltrane le découvre, il est dans la même lignée que lui, c'est-à-dire essayer d'aller sur les musiques du futur et beaucoup sur ce qu'on appelle les gammes, les pentatoniques. C'est des choses comme ça qui sont très nouvelles. On n'est pas dans les accords traditionnels du bebop, c'est-à-dire qu'il va inventer un style, il va inventer un nouveau jeu. C'est qu'un piano qui est extrêmement puissant, qui est appuyé par des grosses basses sur lesquelles ensuite il plaque des accords et puis il descend cette espèce de gamme assez unique qu'il a inventé lui, qu'il est allé chercher. C'est une musique d'élévation et c'est pas une musique facile qu'on écoute d'une oreille, quoi. On est immergé totalement dedans et en ce sens, il a jamais bougé. S'il était d'une intégrité jusqu'à la fin.
Voilà le piano de l'américain McCoy Tyner et les propos d'André Manoukian ont été recueillis par Claire Checaglini. Tous les grands succès, les œuvres importantes de McCoy Tyner sont à retrouver, à écouter sur franceinter.fr. Conseil de lecture, conseil culturel, comme chaque samedi dans le journal de 13h, avec un livre, Les services compétents de Yegor Gran. Pendant plusieurs années, le père de l'auteur, le dissident soviétique Daniel Sanievski, a affolé le KGB en publiant à l'étranger des ouvrages sous pseudo. Finalement démasqué, Sanievski a été condamné à 7 ans de camp avant de s'exiler en France. Ilana Moriousef, c'est donc dans ce livre l'histoire de cette traque qui est racontée par Yegor Gran, Les services compétents, avec un humour et un sens du burlesque qui démolit l'URSS des années 70.
Le lieutenant Ivanov n'a pas de chance. D'habitude, pendant les perquisitions, le meneur de jeu, c'est lui. Et celle qui est supposée avoir peur, c'est la femme du suspect. Mais cette Maria Rosanova est sans doute une diablesse. Comment expliquer sinon qu'elle se moque de lui avec autant d'insolence? Elle l'interroge sur sa calvitie, sa taille de pantalon, Yegor Gran.
Là, il n'a pas de chance. C'est là où je le plains. Alors on dit, oui, les pauvres dissidents, sauf dans le cas de ma mère. Là, c'est les agents du KGB qui sont déboussolés parce que cette femme est imprévisible, limite inconsciente, et elle se dit, bon, perdu pour perdu, puisque mon père s'est fait arrêter dans la matinée, eux, ils débarquent chez elle pour faire la perquisition dans l'après-midi, perdu pour perdu, eh bien, il faut tirer le maximum de jouissance de cette situation désagréable.
Le coup de génie de Yegor Gran, c'est de raconter l'histoire du chat soviétique et de la souris dissidente du point de vue du KGB.
J'ai mis 20 ans à écrire ce livre, en fait. L'histoire, je l'avais, bien sûr, je baigne dedans depuis que je suis petit, mais je ne voyais pas très bien quelle attitude adopter par rapport à ce récit. Et ensuite, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais oui, la composante essentielle de la société soviétique, c'est quand même cette colonne vertébrale que sont les services secrets. Vous ne vous rendez pas compte à quel point ils sont utiles, de leur point de vue. Et je me suis dit, mais alors oui, ça serait intéressant de regarder les changements de cette époque et les hésitations de l'histoire vue par ces gens-là, justement.
Toute une époque vue par les yeux des services compétents, comme il dit, mais avec le filtre comique désopilant de Yegor Gran, la vengeance est un plat qui se mange en riant.
Voilà, choisi par Ilana Moriusef, les services compétents de Yegor Gran aux éditions POL. Vous aimez les livres et la lecture, vous pouvez encore faire partie du jury qui décernera le 8 juin prochain le 46e prix du Livre Inter. Le président du jury cette année, c'est Philippe Lançon, l'auteur du Lambeau. Vous avez jusqu'au 10 mars, encore 3 jours, pour nous écrire, soit par mail sur franceinter.fr ou par courrier. France Inter, prix du Livre Inter, 116 avenue du Président Kennedy, 75-220, Paris CEDEX 16. Écrivez-nous, racontez-nous votre passion de la lecture et des livres. Le temps.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Suivi préventif, entretien sur site ou en centre, Euromaster est au service de votre mobilité et de votre sécurité.
Et on a rendez-vous avec Jean-Michel Golinski de Météo France.
Excepté des averses près des Pyrénées sur la Corse, temps sec cet après-midi avec une accentuation nuageuse au fil des heures entre l'océan, la frontière belge, le centre et le Midi-Pyrénées. Plus à l'est, ciel variablement ensoleillé, toujours plus dégagé dans la vallée du Rhône et autour de la Méditerranée avec un mistral et une tramontane sensibles. Dans des températures de l'ordre de 9 à 13 degrés cet après-midi dans la moitié nord, de 12 à 16 dans la partie sud. Demain, changement avec le retour de la pluie par l'océan. Elle va traverser le pays vers l'est dans le courant de la journée, en épargnant que les régions de l'extrême sud-est. Et puis derrière les pluies, comme à l'accoutumée, c'est un régime d'averse qui va s'installer sur le quart nord-ouest. Une instabilité plus marquée sur les côtes, où le vent sera turbulent jusqu'à 80 km à l'heure du nord de l'Aquitaine au détroit du Pas-de-Calais.